Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour débuter donc ce numéro de Cœur de patrimoine, on s'aventure dans la jungle immobilière et pour ne pas s'y perdre, on a deux guides de choix. Sandrine Allonier, bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là pour vous financer et le réseau L'Adresse. Regard sur l'actualité du crédit immobilier, bien évidemment. Vous avez bien évidemment commenté notamment les tout derniers taux du mois de septembre. Et puis Stéphane Descartiers, bonjour Stéphane.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là aussi avec donc... ce manuel de survie. Attention, rien de moins, hein, c'est pas un guide, c'est carrément un manuel de survie dans la jungle immobilière. Vous trouverez ça aux éditions du Rocher, livre qui veut donner des clés pratiques aux investisseurs. Alors ensemble, on va parler stratégie patrimoniale, financement, perspective. Déjà, peut-être Stéphane, ce livre, avec une idée force, ce choix de la jungle immobilière, pourquoi est-ce que... D'abord, vous appelez ça la jungle. Et deuxièmement, pourquoi vous avez choisi non pas un guide, non pas, mais vraiment d'avoir manuel de survie ?
Parce qu'effectivement, il s'agit de survivre dans cette jungle immobilière aujourd'hui, puisque entre les vents contraires, les réglementations extrêmement fluctuantes, la fiscalité qui est quand même énorme en immobilier, hein, y a pas de pays qui taxe plus les loyers que la France. C'est un petit peu ce manuel, c'est comment s'en sortir. Ce que j'ai voulu faire, surtout, c'est d'essayer de simplifier des notions qui sont quand même assez complexes. Il y a une littérature qui est quand même importante dans le domaine, mais souvent, c'est difficile d'accès. Donc, mon projet, c'était de simplifier au maximum que tout à chacun puisse à peu près comprendre de quoi il s'agit, aussi bien pour rechercher les biens, comment travailler un secteur, comment travailler la fiscalité. J'ai essayé de simplifier en parlant en français, non pas en expert comptable ou en avocat. Et puis, comme vous le savez, Cédric, j'ai développé pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Et j'ai eu la chance pendant cette expérience de rencontrer énormément d'investisseurs, les plus importants, les plus importants investisseurs de la place en immobilier. Et j'ai remarqué que ils avaient souvent des stratégies qui étaient assez proches. Et donc, c'est surtout cette expérience que je veux donner au travers de...
Dans tous les guides qu'on trouve, enfin, parce que la littérature, voilà, si on va se balader ou sur un célèbre site de vente en ligne ou physiquement à la FNAC, c'est vrai que, ou chez un autre vendeur, on s'en fiche, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de littérature, de guides sur l'immobilier, comment bien choisir sa maison, enfin bon, bref. Vous avez souvent, enfin, ça fait quand même quelques années qu'on bricole ensemble, un certain franc-parler, vous avez plutôt tendance à envoyer balader les demi-fausses promesses ou les idées un peu reçues, c'est aussi le but de ce guide.
Oui, tout à fait. Il est très
illustré. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup. Enfin, c'est hyper abordable.
Oui, tout à fait. J'essaie effectivement de simplifier et y compris de dire la vérité. Parce que vous avez tous les jours ou toutes les semaines des bouquins qui sortent pour vous expliquer que vous allez faire fortune en 6 mois en immobilier. Donc, il faut quand même remettre les choses en perspective. Oui, on peut se constituer un patrimoine important en immobilier, mais c'est des contraintes, c'est du boulot, il faut s'en occuper beaucoup, c'est de la charge mentale, c'est-à-dire c'est des soucis. Ceux qui parlent de revenus passifs avec l'immobilier, ça me fait quand même doucement rigoler, c'est tout sauf passif. Donc oui, on peut se construire un patrimoine, mais il y a un petit chemin qui est assez étroit, mais qu'on peut encore suivre aujourd'hui. Et surtout, il faut avoir conscience de la charge mentale que ça va générer, du boulot, parce qu'il faut mettre les mains dans le moteur aussi, même si on a un gestionnaire. Si on a un problème avec le fait d'être de temps en temps borderline avec les textes quand même délirants qu'on connaît, il faut pas faire d'immobilier locatif. Enfin voilà, c'est des réflexes de bon sens et en disant la vérité sur ce qui peut se passer également en immobilier.
Alors, bon, s'il y a une jungle, c'est aussi parce que, et on l'a bien compris, hein, Sandrine, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que là, le marché immobilier, depuis des mois, on en parle plutôt avec du négatif. Parce qu'il y a des questions de marché, parce qu'il y a des questions de taux, parce qu'il y a des questions d'HCSF, enfin bref, tout ce qui habite la jungle. Comment vous la voyez, comment vous voyez ce marché ou cette jungle en cette période de rentrée? Je le disais, évidemment, on est en début de mois, il y a les taux, il y a eu pas mal de conférences de rentrée qui nous ont permis d'en savoir un petit peu. Donc vous, avec vos deux casquettes, là, et le financier et le réseau, comment est-ce que vous voyez un peu les choses?
Alors, moi, je dirais que cette année, on a quand même vu des éclaircies hein, dans cette jungle et plusieurs chemins, notamment pour ceux qui voulaient acheter et ceux qui voulaient acheter leur résidence principale. on est quand même sur un marché en redémarrage avec en moyenne plus 10% de transactions sur les 8 premiers mois par rapport à l'année dernière. Et également des taux qui ont baissé, des banques qui veulent prêter. Donc, j'ai envie de dire, jusqu'ici, tout allait bien. Voilà, maintenant, on attend la suite. Mais c'est vrai que, pour parler de l'actualité plus récente, au mois d'août, pour la première fois depuis septembre 2023, aucune banque n'a baissé ses taux. Donc, on pense qu'on a atteint un plancher, puisque ça a été également le cas pour les barèmes de septembre. Donc là, on peut penser que les taux bas, les taux à moins de 3%, on n'y aura pas le droit, pas dans les prochaines semaines en tout cas, et a priori, on n'y aura plus le droit. Oui, nous, donc, on pense que...
Le monde d'avant avec 2% ou moins...
Ça, a priori, c'est terminé. On est plutôt sur un taux d'équilibre de long terme aux alentours de 3%, avec des banques là, qui sont attentives en cette fin d'année à leur rentabilité, mais aussi en raison du contexte. Donc, on a, c'est vrai, 5-6 banques qui, sur le mois de septembre, ont remonté leur taux de 0,05 à 0,10. Donc, ça reste des remontées très progressives, hein, puisque aucune ne veut sortir du marché. Parce qu'on a quand même encore une demande qui est florissante, donc les banques veulent en profiter. Mais c'est vrai que là, on est quand même un petit peu à la croisée des chemins et à l'image de la jungle. On ne voit pas vraiment beaucoup plus loin que l'arbre d'après, j'ai envie de dire.
Ça veut dire que l'emprunteur potentiel, aujourd'hui, il faut qu'il se dise, j'ai... on ne connaît pas l'épaisseur du trait, mais j'ai plutôt de la hausse de taux devant moi. Et donc, il faut peut-être que je me décide... D'autant que les prix, eux, n'ont pas repris encore l'ascenseur.
Voilà, tout à fait. Là, ça semble être la bonne fenêtre. Alors évidemment, on dit toujours que c'est le moment d'acheter. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'instabilité politique qu'on connaît depuis maintenant plus d'un an, hein, puisque la première dissolution, c'était en juin 2024, ça n'a pas freiné les projets de ceux qui voulaient acheter pour se loger. Les investisseurs, c'est tout autre chose. Ouais. Hein. Eux ne sont vraiment pas revenus. On est qu'à 10% des crédits. Mais les primo-accédants, c'est 45% des acheteurs. Donc, eux sont là. Donc, ceux qui veulent acheter, ceux qui ont un projet pour se loger, eux ont intérêt, là, à en effet passer à l'acte, puisque rien ne dit qu'en 2026, on n'aura pas des taux plutôt à 3,5%. Alors que là, on peut encore négocier un taux à 3%. Donc là, on est quand même dans une ambiance, si je puis dire, où on a des banques qui veulent prêter, même si elles remontent légèrement leur taux, et des vendeurs qui sont nombreux. Hein. On a une hausse des offres de biens de 10% aussi cet été par rapport à l'été dernier. Donc des biens à vendre et encore des marges de négociation. Donc globalement, à court terme, c'est plutôt pas mal.
Stéphane, dans cette jungle, vous dites qu'il y a un sentier qu'on peut suivre, il y a un parcours dans lequel on peut encore s'en sortir. Il y a toujours la question entre primo, secondo accédant, investissement locatif versus être locataire ou acheter sa résidence principale. Dans le monde de financement et de marché que vient de décrire Sandrine, vous voyez les choses comment ? C'est toujours... Il faut toujours regarder l'idée de commencer son parcours par une résidence principale ?
Oui, moi je conseille vraiment, contrairement à d'autres influenceurs immobiliers, peut-être je conseille vraiment d'acheter sa résidence principale dès que possible, dès qu'on a une situation avec une stabilité au moins de 4-5 ans pour absorber les frais. Mais de toute façon, on a une charge logement. Donc que ce soit un loyer ou un remboursement, il vaut mieux que ce soit un remboursement qu'un loyer, puisque un remboursement, bah, tous les mois, on amortit son crédit, donc on crée du capital. Donc n'importe où en France, c'est plus intéressant, dès qu'on est stabilisé, c'est toujours plus intéressant d'acheter sa résidence principale, pourquoi pas de commencer par sa résidence principale. Il n'y a qu'une ville où ça ne se vérifie pas, c'est Paris. Puisque Paris, malheureusement, on n'a pas l'équivalent de remboursement qu'on peut avoir en loyer. Donc Paris est la seule ville en France où ce n'est pas forcément intéressant d'acheter sa résidence principale parce que ça ne correspond pas. À Lyon, à Marseille, un loyer, un remboursement, même d'un crédit à 100% sur 25 ans, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a quelques frais en plus. Mais voilà, c'est quand même la première solution pour capitaliser et surtout pour transformer sa charge logement en capitalisation plutôt que payer des loyers à fonds perdu.
Mais c'est vrai, Sandrine dit, et c'est un mantra qui revient souvent, et c'est vrai que nous, les journalistes, on vous pose toujours la question de savoir si c'est le moment d'acheter. Mais c'est vrai que là, avec cette espèce de croisement de courbe, etc., en se disant les prix n'ont pas encore repris l'ascenseur, même s'il y a un peu de frémissement à gauche, à droite, mais et ces taux qui ont cessé leur baisse et qui commencent à remonter, il y a un moment où, justement, là, il faut, quand on est investisseur, se dire c'est le moment d'acheter, je risque d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, si j'attends encore un peu ?
Oui, alors pour l'investisseur, c'est un peu différent parce que déjà, pour l'investisseur, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc, le fait d'emprunter à 3 ou 4%, c'est moins important, puisqu'on va déduire ses intérêts d'emprunt de ses loyers. Donc, suivant sa tranche d'imposition, ça va quand même faire une économie d'impôt substantielle. Donc, le montant du taux d'intérêt est moins important pour l'investisseur. Mais le problème qu'on a actuellement pour l'investisseur, c'est qu'on est dans le flou total. On a entendu parler, qui devait arriver en décembre, de ce fameux statut de bailleur privé. Or, aujourd'hui, avec l'instabilité politique qu'on connaît, est-ce qu'on a encore un gouvernement? Est-ce qu'on aura encore demain une Assemblée nationale? Donc, qui va présenter cette loi? Qui va la voter? Donc là, on est dans le flou complet. Donc, les investisseurs, moi, j'en rencontre tous les jours, ils me disent « on attend ». Donc, le marché, aujourd'hui, de l'investisseur est bloqué parce que le statut est quand même beaucoup plus favorable que la situation actuelle. Mais on le sait, ça ne concernera pas le stock. Mmh. Ça ne concernera que les nouveaux investissements. Donc, aujourd'hui, tous les investisseurs attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, tout simplement. Et ça, ça bloque le marché. Ça, c'est vraiment un problème.
Et tout le monde peut y aller ou pas, Sandrine? Parce que vous nous dites, les banques, elles ont encore de l'appétit, elles ont besoin de prêter, etc. Mais à tout le monde ou elles ont, on a toujours ces fameuses enquêtes, les chouchous des banques, les ceci et cela. Tout le monde peut se présenter au guichet ou il faut quand même mieux
Alors, tout le monde peut, mais tout le monde n'aura pas le même taux. Ça, c'est certain. Ouais. En fait, elles font vraiment une distinction en fonction de la rentabilité attendue du client. Et pour une banque, rien de tel qu'un couple de primo-accédants qu'elle va accompagner pendant 7 à 10 ans, qui vont ensuite prendre des produits d'épargne dans la banque, des produits d'assurance, etc. Donc, c'est vrai que les investisseurs qui souvent sont multibancarisés vont sûrement avoir moins le tapis rouge et auront 0,10, 0,20 de plus sur le taux. Mais comme le disait Stéphane, ce n'est pas grave. Puisque, souvent, de toute façon, ils vont pouvoir déduire des intérêts. Mais pour rebondir sur les investisseurs et sur, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie d'acheter sa résidence principale? Moi, je suis complètement d'accord. Mais ce qu'on a vu de nouveau cette année chez l'adresse, c'est que certains qui, en effet, dans les grandes villes comme Paris, mais aussi même des villes qui avaient beaucoup pris, comme Angers, Nantes, etc., certains font le choix, on les appelle les primo-investisseurs, d'acheter d'abord un investissement locatif plutôt que leur résidence principale, parce qu'ils ne savent pas où ils voudront travailler, ils ne sont pas en couple, les gens se mettent en couple de plus en plus tardivement. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se fixer, mais qui voulaient quand même profiter des taux à 3%, on a vu ces primo-investisseurs arriver sur le marché, mais ils font souvent un investissement en attendant d'acheter leur résidence principale. Et plus amusant, mais ça existe vraiment, ce sont les tanguistes. Nous, on les appelle les tanguistes. C'est ceux qui vivent chez leurs parents, parce que ils peuvent rester chez leurs parents jusqu'à 28, 30 ans, mais qui veulent quand même acheter à 26 ans, donc ils n'ont pas cette charge de loyer. Ils peuvent rembourser un crédit qui sera pris en charge par le loyer futur. Et eux, du coup, achètent aussi tout en étant hébergés à titre gratuit. Et ça, ce sont deux nouveaux profils qu'on a vus. En revanche, les multi-investisseurs. Exactement. En revanche, les multi-investisseurs avec 8, 10 biens, on a plutôt vu dans le réseau L'Adresse plutôt des ventes de biens, des gens qui justement trouvaient que c'était trop chronophage. Donc oui, les investisseurs peuvent encore se financer, mais évidemment, il faut monter patte blanche dans la banque et de préférence avoir que un ou deux investissements, puisque sinon, ça pèse sur l'endettement. Et là, on a le problème du Haut Conseil de stabilité financière.
Mais alors attendez, s'il y a des tanguistes et des primo-investisseurs, on tord le cou à votre mantra, investir tôt, près de chez soi, maximiser la rentabilité, etc. Ça n'a rien à voir là, on ne sait pas où on habitera quand on est tanguiste ou primo-investisseur.
Pour un jeune cadre qui veut rester mobile, ça je comprends tout à fait. À 20, 24 ans, jeune diplômé, on commence à bosser, etc. Mais on veut saisir des opportunités de job à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Donc, pour ce cas-là, bien sûr, ils peuvent commencer par un investissement locatif pour profiter des taux actuels. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de vocations d'investisseurs que le marché est quand même assez facilement pénétrer ce marché parce que il n'y a pas une concurrence énorme à l'achat. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas une stabilité, si on n'est pas sûr de rester dans son coin pour 4 ou 5 ans, et si on veut rester mobile, on peut commencer par un investissement locatif, un studio, un petit deux pièces, etc. Oui, absolument. Au moins, on capitalise une partie et en bénéficiant des conditions d'achat actuelles qui sont quand même pas mal.
Il y a une grosse considération, entre guillemets, énergétique ou écologique, je ne sais pas comment on le qualifie, avec ces fameuses lettres. On sait qu'il y a des banques qui regardent énormément ces critères-là. Et on sait qu'il y a des investisseurs qui sont un peu à l'affût pour finalement faire de bonnes affaires sur ces passoires énergétiques. Comment est-ce que vous regardez l'un et l'autre là, avec l'aspect financement et l'aspect marché
sur ces questions-là,
parce que
sur les banques, c'est vrai que le DPE est devenu indispensable. Et ce, depuis déjà plus de 2 ans.
Maintenant, il va avoir un QR code, ça change tout.
Bien sûr, pour vérifier sa véracité. Mais quand on dépose en tout cas un dossier, il faut qu'il y ait le DPE et ça va influer sur le taux. Tout simplement parce qu'un bien avec un bon DPE sera un bien qui se revendra plus facilement à un prix avec moins de décote. Et du coup, c'est moins risqué pour la banque. Donc, qui dit moins de risque, dit taux plus avantageux. Et on peut avoir des écarts de taux jusqu'à 0,20, 0,30. Et on a des banques qui font des bonifications. Donc, soit on achète un bien A, B ou C. Et là, on a des prêts à taux bonifiés, on a des taux plus bas. Soit on achète une passoire F ou G, mais avec la possibilité et une ligne déjà de financement pour des travaux. Et là, on peut avoir 0,20 sur le taux. Et ça marche aussi pour des investisseurs. Donc là, mais je vais laisser Stéphane compléter, il y a vraiment un sentier hein, pour ceux qui sont prêts à aller vers des DPE F ou G, mais qui vont évoluer, notamment pour ceux qui ont des chauffages électriques à la rentrée et qui pourront en plus avoir du coup bénéficier d'un taux plus bas.
Oui, c'est vrai que vous parliez de parfois flirter avec les règles, avec les normes, etc. Là, la question, elle est entière sur les DPE. Elle est entière sur est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on achète pour sa résidence principale, parce que ce n'est pas la même donne.
Oui, bien sûr. Alors, concernant les passoires, moi, je conseille vraiment de regarder le marché des passoires, y compris en tant qu'investisseur, parce que les dates ne sont pas tenables. Les interdictions de louer ne sont pas tenables. Vous avez vu qu'à la faveur encore d'un micmac sur la réglementation, on a ramené 850 000 logements dans le parc locatif.
Oui, parce que le quota, à chaque fois, est quand même énorme. Hein. Ce n'est pas 3-4 logements qui sortent.
Non, mais c'est énorme, notamment parce qu'avant, on pénalisait le chauffage électrique sur les logements. Donc, c'est quand même assez cocasse. On nous pousse à rouler à l'électrique, mais si on se chauffe à l'électrique, on est puni. Donc là, je vous avoue qu'on n'y comprend plus rien. Mais surtout, effectivement, vous le savez également, Sandrine Cédric, vous avez vu que MaPrimeRénov a été quand même considérablement raboté. C'est rien de le dire, c'est peu de le dire. Donc, est-ce qu'on peut continuer à interdire alors qu'on supprime les deux tiers des aides ? Est-ce qu'on peut continuer à interdire alors qu'on manque de logements ? Enfin, vous savez, il y a encore une enquête qui est parue. Un studio aujourd'hui à Paris, c'est 800 dossiers. 800 dossiers pour un studio que les administrateurs de biens, que les agences immobilières reçoivent. Donc, c'est complètement délirant.
Oui,
donc,
on a vu à l'occasion de la rentrée aussi le problème avec les étudiants.
Non, mais, voilà, c'est aujourd'hui plus d'un étudiant sur 5 qui renonce à ses études faute de logement. Donc, les dates ne sont pas tenables. Les interdictions vont sauter. J'en suis absolument persuadé. Mais en attendant, il y a un peu une hystérie collective autour du G, du F, etc. Les gens ont peur de ça, donc il faut en profiter. Il faut être opportuniste, il faut se positionner sur ses passoires, faire des travaux quand on peut, bien entendu. Mais je suis, moi, absolument persuadé, j'ai parié officiellement, déjà, que les interdictions de louer vont sauter parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Ouais. Donc il y a des opportunités aujourd'hui.
Allez, dernière petite question, une forme de conseil estampillé Stéphane Descartiers ou Sandrine Allonier. Qu'est-ce que vous diriez à un épargnant aujourd'hui qui vous écoute ce matin ? Est-ce que il faut se dépêcher parce que on va se prendre une hausse de taux et parce que les prix vont finir par remonter ? Est-ce que il faut se lancer dans l'IMO ? Enfin voilà, Sandrine, peut-être pour commencer.
Pour ceux qui ont un projet immobilier, que ce soit pour acheter, pour se loger ou pour louer, là, il y a vraiment une fenêtre de tir jusqu'à la fin de l'année. Moi, je ne ferai pas de pari sur le reste, sur le niveau des taux en tout cas, ni sur les prix sur le début de l'année. Donc, on a vraiment ce manque de visibilité. Mais si on achète maintenant sur une durée de 5, 7, 10 ans, voilà, ça me paraît être quand même un choix raisonnable, en tout cas à court terme, parce que moi, j'ai envie de dire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre, en tout cas à court terme. Donc voilà, prenons déjà ce qui est bon à prendre maintenant.
Stéphane, pourquoi il faut encore investir dans la pierre et comment éviter les erreurs ?
Les conseils de base pour l'investissement locatif, c'est de travailler un secteur qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il faut acheter chez soi. Alors, pas forcément à Paris si on est parisien, mais en première ou en deuxième couronne. Il faut travailler un petit secteur. le plus petit possible à l'échelle d'une ville, voire d'un quartier, le nord de Boulogne ou le sud de Melun. Il faut travailler un petit secteur parce que pour faire les bons coups, il faut être sur tous les coups. Et il n'y a que sur un petit secteur qu'on connaît bien, dont on connaît les prix, où on peut faire intervenir des entreprises qu'on connaît pour les travaux, qui sont recommandées, etc. Enfin, c'est du bon sens. Donc, travailler un petit secteur, ne pas oublier d'avoir effectivement en tête que c'est du boulot, c'est de la charge mentale, et puis travailler l'impôt, travailler la fiscalité, puisque la fiscalité, si on s'en occupe pas, elle s'occupe de vous.
Et, oui.
Et on peut,
il nous oublie jamais.
Voilà, si on n'anticipe pas se retrouver avec la moitié ou les deux tiers de ses loyers qui repartent en impôts et prélèvements sociaux, donc ça s'anticipe. Il faut utiliser les éponges à loyer, et il y en a. Donc voilà, mais ça se travaille avant. Pour orienter ses recherches vers des produits de travaux, vers des produits qu'on va pouvoir louer en meublé, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les conseils de base et qui peuvent vous permettre encore, malgré des vents contraires, à faire à constituer un joli patrimoine immobilier. Et puis pour la résidence principale, c'est le moment, effectivement. Ne pas oublier en ce moment de regarder le neuf, parce qu'il y a des coups de fusil sur le neuf, sur des queues de programme.
Ouais. En faisant attention avec les queues de programme, quand même,
oui,
parce
bien
que
sûr.
Souvent, quand c'est pas parti, c'est
oui,
que...
Oui, bien sûr. Mais enfin, voilà, ouais. Sur des programmes ouais. Dont les GFA sont obtenus, on sait que ça va aller au bout. Il y a des opportunités. Il y a le PTZ pour le neuf. Donc, il y a aussi beaucoup d'avantages. On peut emprunter encore beaucoup moins cher si on va sur le neuf. Il y a des économies aussi d'énergie, etc. Donc, et puis, les promoteurs font ouais. De très belles conditions, de gros rabais en ce moment. Donc, pour sa résidence principale, ne pas hésiter à regarder le neuf également.
Allez, ce manuel de survie dans la jungle immobilière que vous trouvez bien évidemment aux éditions du Rocher et qui pourra vous guider dans vos choix immobiliers. Merci Stéphane Descartiers, donc pour ce guide, pour ce manuel de survie, et Sandrine Alonier, donc pour vous financer et l'adresse.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.